Alors voilà, j'espère qu'à travers cet enseignement, on voit l'importance centrale vraiment des psaumes, même dans la vie du monde. Alors, est-ce que vous savez que la seule parole de l'Écriture qui soit plantée quelque part hors de la terre, c'est un psaume. Je vais vous expliquer ça en deux mots. Donc, la seule parole qui a été plantée en dehors de la terre. Alors maintenant, je ne sais pas, il y a de nombreuses expéditions autour de la terre, il y a peut-être des engins qui sont en train d'aller, sans être habités, mais qui s'en vont vers je ne sais quelle galaxie, peut-être qu'il y a des paroles qui ont été mises dedans, mais là je parle d'une parole qui était sur un corps céleste et qui reste. Eh bien voilà, c'était en 1969, ça va faire 50 ans, le premier voyage lunaire, Apollo 11. Eh bien, Paul VI était passionné pour ce voyage. Et il a fait envoyer aux astronautes, aux Américains, donc Armstrong, Aldrin et Collins, une plaque. Alors, je pense que ça a été mis. En tout cas, lui, il a demandé expressément que cette plaque soit mise sur la Lune, avec une citation de psaume. Et c'est le psaume 8. « Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers », et surtout les versets « Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci ? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, tu as mis toutes choses à ses pieds. » Alors donc normalement, en tout cas ça c'était le vœu de Paul VI, et normalement, en plus du drapeau américain, il doit y avoir ce psaume, mais donc c'est la seule parole qui est sortie de ce monde. C'est vous dire l'importance donc des psaumes. C'est quelques versets du psaume 8. Voilà. Donc ça va faire 50 ans en juillet prochain. Alors, nous nous sommes arrêtés donc ce matin sur les imprécations. Donc ça, j'en ai bien parlé déjà. Et nous avons terminé justement avec ce verset du psaume 109 que j'ai essayé d'expliquer. Le Seigneur te donne le sceptre de sa force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Il nous reste encore à parler avant peut-être de nous pencher maintenant sur un psaume, de les lire, tout simplement d'en lire un ou deux, en le commentant, sur la personnalité de David, l'auteur présumé des psaumes. Il convient d'évoquer donc, nous dit Claire Pathier, la question de la date de l'auteur des psaumes, et de l'auteur des psaumes. La tradition affirme que David est l'auteur des psaumes. En même temps, les exégètes disent que si les psaumes les plus anciens remontent à l'époque du premier temple, vers 1000 avant Jésus-Christ, donc en fait juste après le règne de David, le premier temple, c'est Salomon, donc après la mort de David. Certains psaumes peuvent avoir été composés à l'époque des Maccabées, c'est-à-dire 100 avant Jésus-Christ, ce qui exclut donc la réalité historique de David, auteur de tous les psaumes, c'est évident. David n'a pas vécu durant 900 ans. En tout état de cause, il reste que le Saint-Esprit a permis que le nom de David soit indissociable des psaumes. Et d'ailleurs, dans le psautier, vous avez ça dans les Bibles de Jérusalem, ou dans la Tobe aussi, mais vous ne l'avez pas dans la traduction liturgique, dans le livre des psaumes bibliques, 73 psaumes sont attribués à David, où il y a marqué psaume de David, etc. Dans la Bible hébraïque. Dans la version grecque qu'on appelle les Septante, ce sont 83 psaumes qui sont attribués à David. Je rappelle que la Bible juive, traduite en grec, c'est une Bible juive. Hein. Il n'y a que l'Ancien Testament dans les Septante. A été traduite en grec, donc, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Et c'est cette Bible grecque qui utilise justement cette numérotation un petit peu différente qui fait qu'il y a toujours un décalage dans la plupart des psaumes. On est obligé de mettre une numérotation entre parenthèses. Quoi qu'il en soit, l'Esprit Saint a donc permis que le nom de David soit indissociable des psaumes à cause de l'expérience personnelle de ce grand roi d'Israël, de ses talents, de son nom. David signifie en effet le bien-aimé. Le chéri, en hébreu, c'est Dodi. Et là, David, donc, c'est une sorte de transformation de cette consonance-là, le bien-aimé. Or, il est évident que des prières telles que les psaumes ont été composées par des hommes qui ont reconnu l'amour du Seigneur dans leur vie et qui y ont cru, comme le dira beaucoup plus tard l'apôtre Saint Jean, l'évangéliste Saint Jean, dans sa première lettre. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Tel a donc été le cas de David. Il a vu le Dieu d'amour à l'œuvre dans sa vie. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et il l'a surtout expérimenté lui-même dans sa vie, alors qu'il devait se repentir d'un très grave péché qu'il avait commis. Il y a aussi cette citation de David, « Comme est la hauteur des cieux sur la terre, c'est le même psaume, puissant est son amour pour qui le craint. » C'est le psaume 102, entre parenthèses 103, qui est le grand psaume de la miséricorde. Par ailleurs, David était aussi connu comme un grand chantre devant le Seigneur, selon le mot du second livre de Samuel. Oracle de David, fils de Jessé, oracle de l'homme haut placé, du Christ de Dieu. Christ signifie ici le oint, le Messie, Mashiach. C'est donc un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Christ, c'est celui qui est oint, il a été oint. Et ça, on trouve dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 16, l'onction de David par Samuel, qui est allé spécialement dans la famille de Jessé pour rencontrer David et lui donner l'onction, pour qu'il soit roi à la suite de Saül. Donc, oracle de David, l'homme haut placé, le Christ du Dieu de Jacob, du chantre des cantiques d'Israël, le chantre des cantiques d'Israël. Et on le voit aussi jouer d'un instrument, de la lyre, surtout pendant que Saül est pris parfois par sa folie meurtrière. Ou encore, comme il est écrit au livre du Siracide, ou Ecclésiastique, c'est le même livre, Ecclésiastique ou Siracide, au chapitre 47, « Dans toutes ses œuvres, David rendit hommage au Saint, très haut, dans des paroles de gloire. De tout son cœur, il chanta, montrant son amour pour son Créateur. » Montrant son amour pour son Créateur. Alors, pour ces raisons, et surtout dans un commentaire spirituel des psaumes, comme nous le faisons ici, nous continuerons à parler des psaumes de David, sans nous demander s'il est vraiment l'auteur littéral de tel ou tel psaume. Nous lui attribuons la paternité spirituelle de tous les psaumes. On va peut-être se détendre un petit peu, je vais vous raconter un midrash. Vous savez ce que c'est qu'un midrash? Dans la tradition juive, un midrash, ce n'est pas une histoire vraie, c'est une espèce de conte qui part d'une situation biblique, d'une réalité biblique, mais qui raconte ensuite une histoire pour donner une leçon de spiritualité profonde, soit une leçon de morale, soit une leçon même de théologie ou autre. Alors, je ne veux pas vous choquer, il y a des midrashs dans la Bible. Je ne vous choque pas, il y a des livres qui ne sont pas historiques. Il y en a plusieurs. Le livre de Jonas n'a jamais existé. C'est un midrash, l'histoire de Ninive. On aimerait bien que ce soit vrai, mais malheureusement, l'histoire de Judith, c'est un midrash. L'histoire de Tobie est un midrash. Job, pareil. Donc, voyez, le style midrashique. Mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont dans la Bible sous forme de midrash ne soient pas vraies, parce que ce qu'ils nous disent, c'est profondément vrai. Mais ce qu'ils utilisent pour nous enseigner, ça la forme donc un petit peu du conte. Voilà. Alors, le midrash nous dit, voilà, que David, il y a des midrashs qui sont un petit peu assez humoristiques, David considère un petit peu les 150 psaumes qu'il a composés. Et puis il y a une petite bouffée d'orgueil, il est quand même content de lui. Et il en parle au Seigneur, parce que c'est quand même un familier du Seigneur. Alors il dit, Seigneur, je ne voudrais pas dire, mais quand même, personne au monde ne t'a aussi bien chanté que moi, finalement. Et alors là, il y a un silence dans le ciel, silence complet. David a dit, ah, j'aime pas ça. S'il n'y a pas une réponse immédiate, ça veut dire que... Alors il reprend un peu plus timidement, Seigneur, je ne sais pas si tu m'as entendu, mais il me semble que personne au monde ou dans l'histoire ne t'a jamais chanté aussi bien que moi. Alors là, le Seigneur lui répond, David, je vais te montrer quelqu'un qui chante immensément mieux que toi, immensément mieux que toi. Il lui montre un crapaud. Alors David respire un peu, il dit, Seigneur, je sais qu'avec toi, tu as de l'humour et tu aimes bien, tu me taquines là. Le Seigneur dit, non, je suis très sérieux. Ce crapaud chante immensément mieux que toi. Alors David, eh bien, je veux bien, Seigneur, j'accepte, mais explique-moi, s'il te plaît. Alors le Seigneur lui explique, ce crapaud chante tel que j'ai toujours voulu qu'un crapaud chante. Il chante pleinement comme un crapaud. Son identité de crapaud s'exprime dans son chant. Tandis que l'homme, à cause du péché, ne chantera jamais tel que j'avais rêvé à l'origine. Quand j'ai créé l'homme à mon image, le chant de l'homme aurait été immensément plus beau que tout ce qu'on peut faire maintenant. Donc voilà. Le crapaud chante pleinement comme un crapaud, mais tant que l'homme sera sur terre, eh bien jamais l'homme ne chantera tel que j'avais rêvé qu'il chante. Voilà. C'est le midrash de David et du crapaud, à propos des psaumes. Voilà. Alors, on va revenir donc maintenant à... quelques extraits encore de ce livre de Claire Pathier. Juste pour terminer, pour conclure cette longue présentation que j'ai faite, qui a pris toute la matinée et puis encore jusqu'à maintenant. Après ça, nous allons quand même plonger un petit peu dans les psaumes. C'est Saint Basile. Dans ses homélies sur le psaume 1, mais enfin c'est un psaume, là il commente les psaumes d'une certaine façon en général. Voilà ce que dit Saint Basile. Le psaume est un épouvantail contre les démons, un auxiliaire pour obtenir l'assistance des anges, une armure contre les peurs nocturnes, une pause dans les labeurs du jour. C'est la sécurité des enfants, l'ornement des jeunes, le réconfort des vieillards. C'est une instruction élémentaire pour les débutants, un accroissement pour les progressants et un soutien pour les parfaits. C'est la voix de l'Église. Voilà. Très belle synthèse faite par Saint Basile. Parmi les ouvrages que j'ai un petit peu recommandés ce matin, donc, je ne vous en ai pas recommandé beaucoup, il faut encore signaler alors que Jean-Paul II puis Benoît XVI ont fait toute une catéchèse sur les psaumes des offices. c'est-à-dire tous les psaumes que l'Église récite à l'aude et tous les psaumes qu'elle récite à vêpres. Et après la mort de Jean-Paul II, Benoît XVI a continué cette catéchèse donc jusqu'au bout. Et c'est très très intéressant, c'est très bien fait, c'est très pédagogique, c'est spirituel. En même temps, il y a un petit peu d'analyse là-dedans, mais pas trop. Ça aide vraiment à la prière. Alors maintenant, c'est d'ailleurs ce n'est pas un secret, ce ne sont ni Jean-Paul II ni Benoît XVI qui ont fait toutes ces analyses. Peut-être qu'ils ont lu ce qu'on leur a proposé et qu'ils ont ajouté ici ou là peut-être une phrase ou qu'ils ont mis leur marque personnelle. Mais autant que je sache, ce travail est dû à ce grand homme théologien et exégète qui est Albert Vanoy, qui est devenu cardinal. Alors il n'est pas évêque. Il y a quelques cardinaux comme ça qui ont été nommés, comme de Lubac ou d'autres. Eh bien, Vanoy a été nommé cardinal et il est très connu. Maintenant, je ne sais pas. Par contre, je ne sais pas s'il est encore de ce monde. S'il est encore de ce monde, il est très très âgé. Et il est très connu pour avoir écrit une exégèse, une analyse magistrale qui fait autorité et qui est une référence permanente sur la lettre aux Hébreux. Albert Vanoy, belge. Et c'est lui qui a rédigé en fait toutes ces catéchèses. Eh bien, je vous les recommande. C'est vraiment très. Je crois que c'est édité par Desclée de Brouwer, donc en tout cas c'est très facile à trouver. Catéchèse sur les psaumes, Jean-Paul II, puis Benoît XVI. Alors maintenant je propose que nous lisions de façon détendue, on ne va pas faire une grande exégèse, d'abord on n'en aurait pas le temps. Mais nous allons lire un psaume d'un bout à l'autre et qui convient bien pour le vendredi, mais aussi par rapport à la personnalité même de David. Il s'agit du psaume 50, ultra connu. Dans la Bible, c'est 51, qu'on appelle le Miserere et que l'Église récite chaque vendredi matin à l'aude. Alors, selon la Bible de Jérusalem, le psaume est de David, et il se situe même à un moment très particulier de la vie de David, après qu'il ait pris conscience du péché qu'il a commis en s'unissant à Bethsabée, la femme de Uri, le soldat, et en faisant disparaître Uri dans la mêlée, en faisant tuer Uri, alors que lui, David, restait dans son palais. Il n'était même pas au combat. On connaît l'histoire. Il y a la guerre avec le général en chef des armées de David, Joab. Uri est un officier. Et David est dans son palais et sur la terrasse du palais, il a vu une femme qui se baignait et il est pris de passion pour elle. Il l'a fait venir, Bethsabée. Il s'unit à elle et alors elle va être enceinte. Dès qu'il apprend qu'elle sera enceinte, donc très tôt, David ne veut pas endosser la responsabilité. Il veut la faire endosser à Uri, mais il ne veut pas dire à Uri non plus qu'il s'est uni à Bethsabée. Donc il lui dit, alors que la règle voulait que les soldats n'aillent pas dans leur foyer, mais qu'ils dorment dans la garnison. Ils n'avaient pas le droit de s'unir à leur femme pendant la guerre. Mais là, David dit, je t'en prie, va retrouver ta femme. Et vit une vie normale avec elle. Il lui dit, voilà, je te donne vraiment la permission pour le faire. Seulement voilà, Uri, un soldat très consciencieux, ne veut pas, il ne veut pas enfreindre la loi, il reste dans la garnison. David n'est pas très content de ça, parce que vous avez compris, il veut faire endosser la paternité à Uri, en fait. Et alors, quand il apprend ça, il fait revenir Uri, et là, il l'enivre. Il lui offre un grand festin, il l'enivre. Et puis il se dit, donc là, il ne sera pas conscient, il va faire exactement ce que je lui dis, il lui dit, va retrouver ta femme. Mais non, rien à faire, Uri reste dans la garnison. Alors David, qui ne veut absolument pas qu'on découvre sa faute et de qui est l'enfant, dit, ben, il n'y a qu'un seul moyen maintenant, c'est de se débarrasser d'Uri. Comme ça, je pourrais toujours dire qu'il est le père, mais qu'il est mort au combat, Alors il donne instruction à Joab, il dit « Mettez Uri au plus fort de la mêlée lors du prochain combat, et là qu'il meure. » Et c'est ce qui va se passer. Et Bethsabée va emménager dans le palais de David. Alors, peu après, Nathan, le prophète personnel de David, tout ça vous le trouvez au deuxième livre de Samuel, hein, deuxième livre de Samuel. Le péché de David, David et Bethsabée. Nathan va venir et va raconter une histoire, encore un midrash si vous voulez, ou une parabole à David, disant voilà, il y avait un homme riche, etc., qui avait plein de biens, etc., tout, et à côté, il y avait un pauvre qui avait juste une petite brebis. Il aimait cette brebis, il la nourrissait, elle partageait donc sa vie, elle mangeait dans sa coupe, etc. Arrive un invité pour le riche, un invité important, un homme de grande importance. Et alors, le riche demande qu'on prenne la brebis du pauvre, il la tue pour la prêter et pour festoyer. Il raconte cette histoire à David et David entre dans une colère et il dit... En vérité, aussi vrai que le Dieu d'Israël est vivant, cet homme-là mérite la mort. Et alors, Nathan dit, cet homme, c'est toi. Il lui explique, voilà. Tu avais tout ce qu'il fallait, tu as un palais, tu as des femmes, parce qu'à l'époque-là, c'était bien sûr encore la polygamie, tout, etc. Tout, il y avait ce pauvre couple, Uri, etc. Tu l'as pris et tu as tué Uri. C'est très grave péché. Dès qu'il entend cela, David dit, j'ai péché contre le Seigneur. Voilà. Il dit que cette phrase. Dans 2 Samuel, il n'y a que ça. Mais visiblement, c'était un repentir total, intégral, parce que tout de suite, Nathan dit, de son côté, maintenant, le Seigneur te pardonne parce que tu te repens. Alors, ça n'ira pas sans problème quand même. L'enfant en question va mourir. Et le deuxième enfant... alors que David aura de Bethsabée, ce sera le roi Salomon, le futur Salomon. Donc le repentir de David. Il y a une tradition, aussi bien juive que chrétienne, qui fait la différence. Il a gravement péché, mais il a levé les yeux vers le Seigneur, c'est ça. David a levé les yeux vers le Seigneur. C'est la grande différence avec Caïn, le premier meurtre, chapitre 4 de la Genèse. Caïn tue son frère Abel, mais il ne lève pas les yeux vers le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur lui dit, mais pourquoi es-tu abattu? Pourquoi gardes-tu les yeux fixés sur la terre? Voilà. Et alors Caïn va être banni. Alors David, c'est le premier grand repentant dans la Bible. Il prend la tête des grands repentants. Et c'est pour ça que la tradition lui a attribué ce psaume 50 qu'il aurait donc, selon la tradition, composé, rédigé après avoir pris conscience de ce grave péché qu'il a commis. Il se peut très bien qu'il y ait des éléments archaïques dans ce psaume qui remontent vraiment à David. Personnellement, je ne pense pas que l'ensemble du psaume soit de lui, mais on verra tout ça, on verra. Je pense qu'il y a eu plusieurs successions de choses qui se sont ensuite mises ensemble, qui ont été ramassées pour en composer un psaume. Il me semble, mais je ne suis pas du tout exégète et ni spécialiste, là je parle un petit peu intuitivement, qu'il y a certains versets qui seraient plutôt de la période exilique, c'est-à-dire de l'exil à Babylone, où le peuple exilé n'avait plus la possibilité d'offrir des sacrifices. Et où il a appris ce qu'on appelle le culte intérieur, en l'absence de temple, en l'absence de prêtres, en l'absence de sacrifices, pendant la déportation à Babylone. Alors je vais le lire et je vais faire un commentaire très simple, comme ça vient. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Donc il y a déjà cette notion théologique que quand Dieu pardonne, il efface. Il le dit dans les prophètes, dans Isaïe en particulier, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je ne me souviendrai plus. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Alors le psalmiste maintenant entre plus dans une sorte d'introspection. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. En fait, c'est ce qui se passe en tout homme. Il est impossible que la conscience de tout homme ne soit pas à l'œuvre. Seulement voilà, avec la liberté humaine, on peut fuir. Comme Caïn, suis-je le gardien de mon frère, au lieu de se repentir. On peut nier, on peut être dans le déni. Donc, on peut ne pas vouloir voir. Oui, je connais mon péché, mais il n'y a rien à faire. Ça s'inscrit quelque part dans la conscience. Je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Cela veut dire que, en fait, toi seul connais la gravité et la profondeur de mon péché. Moi, je n'en vois que les symptômes. Je n'en vois que les manifestations. Je n'en vois que ce que j'en ressens. Toi seul connais vraiment mon péché. Toi seul, d'ailleurs, connais dans ta miséricorde éventuellement la part dans laquelle je ne suis pas forcément responsable, à cause des blessures, à cause des circonstances, circonstances atténuantes éventuellement. Toi seul connais les tenants et les aboutissants de l'action que j'ai faite. Bien sûr qu'on pêche contre nos frères, mais le plus offensé, le premier offensé, c'est naturellement Dieu qui nous a fait le don de la vie et le don de l'amour, avec le précepte d'aimer notre prochain comme soi-même. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ça veut dire contre toi et toi seul, j'ai vraiment péché totalement. Je suis totalement redevable. Ma dette est totalement pour toi. Elle est moins pour mes frères. Mes frères ont pu, je ne sais pas, des comportements ont pu provoquer telle ou telle action chez moi ou autre. C'est à Dieu qu'il faut rendre compte, d'où le sacrement de la réconciliation. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal, à tes yeux, je l'ai fait. Alors cette conscience du péché et de sa gravité, c'est le propre même du repentir. Quand Pierre a nié trois fois, et que c'est monté à sa conscience, à cause du regard que Jésus a posé sur lui, selon saint Luc, alors il est sorti, il a pleuré amèrement. Il a vu toute la portée de ce qu'il a vécu. Alors il en était inconscient. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Donc la conscience d'abord que j'ai profondément blessé Dieu, qui est la pureté, l'innocence même. C'est ça la crainte de Dieu, la vraie crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte servile. La crainte servile est une première étape. C'est la crainte du châtiment. Je fais tout, j'essaye de ne pas pécher parce que je ne veux pas être damné, quoi. Voilà, c'est la crainte du châtiment. Mais la vraie crainte, c'est une crainte d'amour. Dieu est si bon, si beau, que je crains de lui faire mal. Comme quelqu'un qu'on aime, on craint de le blesser. Par exemple, un enfant, on craint de le blesser. C'est ça la vraie crainte. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ça, c'est vraiment le cœur qui s'ouvre. Il dit oui, je reconnais. C'est le fils prodigue qui entre en lui-même, rappelez-vous. Il vivait complètement à la surface de lui-même quand il était dans la débauche. il n'en avait peut-être même pas conscience. Il a dilapidé ses biens, il a fallu cette famine, il a fallu cette situation dégradante d'être au milieu des porcs et qu'on ne lui a même pas donné la nourriture des porcs. Entrant alors en lui-même, nous dit l'Évangile, il se dit, voilà, j'ai un père. Il se souvient qu'il a un père et il se souvient qu'il est fils. Et il voit à quel point il s'est dégradé comme fils. Alors il se relève et dit, Père, j'ai péché. C'est exactement ça. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Là, le psalmiste n'a pas peur. Il n'est plus dans la crainte servile. Il veut réparer de tout son cœur. Son cœur est transpercé de repentir, de contrition. Et le seul qui peut réparer, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il fait une véritable confession. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice. Et il peut dire ça parce qu'il sait que la justice va être vraiment la justice de Dieu, pas la justice humaine. Dieu ne va pas se venger. La justice de Dieu s'identifie, et il le sait, elle s'identifie avec sa miséricorde. Parce que Dieu connaît le fond des cœurs. Il a bien vu que David, en fait, reste le bien-aimé et qu'il aime le Seigneur et qu'il a eu un moment terrible d'égarement. D'ailleurs, c'est très intéressant du point de vue psychologique et spirituel. Dans le récit du péché de David, vous le trouverez donc dans le deuxième livre de Samuel, avec Bethsabée, tout ce chapitre, à partir du moment où il voit la femme sur la terrasse, tous les versets qui suivent, il n'est plus fait mention de Dieu, rien du tout. C'est très intéressant, ça veut dire que David est complètement enfermé dans son cercle passionnel. Il est englouti par sa passion. Il perd complètement l'horizon pour lequel il a été fait, pour lequel même il a été fait roi, roi d'Israël, avec l'onction. Tout ça, il le perd. Il n'est plus que là pour son péché et pour trouver le moyen par ruse de s'en sortir jusqu'à la mort de Uri. Il n'y a pas une seule mention de Dieu dans tout ce passage. La mention de Dieu reviendra quand David dit « J'ai péché contre le Seigneur » après que Nathan lui ait parlé. C'est très intéressant ça. Donc David qui prend conscience sait que la justice de Dieu est vraiment juste en tout, qu'elle tient compte de tout. Ainsi, tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire sur le péché. Pas une victoire écrasante qui va m'écraser, mais tu vas être victorieux en moi du péché. Et toi seul, il n'y a que ta grâce qui peut faire en moi que je retrouve ma dignité royale de oint, de Messie qui a été consacré. Tu peux être juge et montrer ta victoire. Et alors, la prise de conscience, qui ne peut être donnée que dans l'Esprit Saint, et que nous avons tous, chrétiens, moi je suis né dans la faute. Je sais très bien que je suis né solidaire du péché originel. Que je n'ai pas été exempté de la souillure originelle. Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Dès le sein de ma mère. Quel verset profondément théologique sur le péché originel et de ses conséquences, là, justement. Alors, tout cela, je vous le rappelle, Jésus l'a fait sien. Bien sûr, il n'est pas dans cette situation. Mais il va jusque dans ses enfers, je ne parle pas de l'enfer avec un grand E, dans ses enfers au pluriel, dans ses séjours de mort, là où l'homme se met à mort lui-même à cause du péché, il va jusque-là. Et il endosse sur lui l'homme qui ploie sous le poids de la faute. Et c'est au nom des autres qu'il dit « Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère ». Ce n'est pas vrai pour lui, mais il dit « J'ai endossé la condition humaine de l'homme pécheur ». Jésus n'a pas revêtu l'humanité de Adam avant le péché. Il a revêtu la condition humaine de l'homme pécheur, ployant sous le péché. Il n'a jamais péché, mais il a été identifié au péché. C'est pour ça qu'il n'a pas craint, probablement, de dire ce verset aussi. Même si ça ne le concerne pas lui, il le dit au nom du peuple. Il le dit au nom de chacun de nous. « Je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. » Ça veut dire que c'est un appel à la miséricorde. Mais tu sais bien, Seigneur, qu'en fait, certainement, j'ai été responsable. Mais il y a quand même, à la base, quelque chose dont je ne suis pas complètement responsable. Alors cette confession continue de façon admirable, un modèle de psaume à lire avant d'aller se confesser, justement. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Et ça, nous pouvons en faire une prière pour tous les hommes, y compris pour ceux qui actuellement se révoltent ou tournent le dos à la foi et à Dieu. On peut toujours prier, Seigneur, sois victorieux dans le plus endurci des pécheurs. Le fils prodigue, qui finalement rentre en lui-même. Il ne serait pas entré en lui-même si, pendant tout ce temps, dans sa conscience, le Seigneur ne lui avait pas appris la sagesse, il ne l'avait pas accueilli, c'est différent. Mais voilà, dans le secret, tu m'apprends la sagesse, tu m'instruis, tu veux au fond de moi la vérité. Et c'est ça qui me libère. Dans le secret, ça veut dire dans ma conscience. Le Concile Vatican II dit, dans la constitution Gaudium et Spes, que la conscience est le lieu le plus secret de l'homme, là où la voix de Dieu se fait entendre. Et ça, c'est valable pour le croyant comme pour le non-croyant, là où la voix de Dieu se fait entendre. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Tu m'enseignes. Alors parfois, il peut arriver qu'on se sent très coupable, qu'on se sent sale, pécheur, dur, avec un cœur dur, pas un cœur de chair, mais un cœur dur. On se sent loin de Dieu. Surtout ici à Paray-le-Monial, nous pouvons toujours avoir recours à l'adoration. Devant le Saint-Sacrement, là, je m'abandonne. Je peux me sentir moche, défiguré, encombré, sans réel désir de conversion. Mais je peux dire, Seigneur, je me mets devant le Saint-Sacrement, devant toi. Et là, dans le secret, tu m'apprends la sagesse, tu me façonnes, tu refaçonnes mon cœur, tu me redonnes un cœur pur, comme d'ailleurs le psalmiste va le demander tout à l'heure. Tu veux au fond de moi la vérité, alors je l'accepte. Même si aujourd'hui je me sens misérable et incapable de l'accueillir, je l'accepte. Et ça, les temps d'adoration, c'est ça aussi. On peut lire ce psaume pendant le temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. C'est extrêmement nourrissant et thérapeutique. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Alors là, il y a des réminiscences bibliques dans le psaume. L'hysope, c'est ce que les enfants d'Israël, les Hébreux, avec l'hysope, ils devaient mettre du sang sur le linteau des portes. La fameuse nuit où Dieu est passé en Égypte et l'extermination des premiers-nés d'Égypte, où l'exterminateur a passé outre chaque fois qu'il a vu le sang sur le linteau des portes, là où habitait le peuple hébreu, en Égypte. Donc, signe de la faveur de Dieu. Mais alors, prophétique, bien sûr le psalmiste ne pouvait pas le savoir, c'est avec une branche d'hysope qu'on a donné du vinaigre à Jésus, dans l'évangile de Jean. L'hysope qui est entré en contact avec la croix, qui est entré en fait en contact avec l'agneau, le véritable agneau pascal. Jésus, c'est l'agneau pascal, l'agneau de la Pâque, que Dieu a demandé à Moïse que cet agneau soit immolé pour la Pâque. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Voilà, tu peux me rendre pur, comme le lépreux qu'il dit dans l'Évangile. Si tu veux, tu peux me purifier. Tu peux donc me purifier de la lèpre du péché, de la laideur du péché. C'est un acte de foi extraordinaire, ça. Et donc David, là, est vraiment il prend la tête du cortège des repentants, avant que Jésus ne le prenne, alors cette fois-ci avec toute la puissance de sa grâce. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Alors là, simplement,